Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant. Qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Au chapitre 55, des versets 10 et 11. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Rendons gloire à Dieu. La deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 18 à 23. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien. Non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons, en effet, que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création, nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissions aussi intérieurement, en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Louange à toi, ô Christ.
Notre troisième lecture de ce jour se trouve dans Matthieu, au chapitre 13, les versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit : « Un semeur sortit pour semer. comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Louange à toi, Seigneur.
Et au lieu de pouvoir entrer dans la reconnaissance, nous pouvons revenir sur cette semaine écoulée pour reconnaître ce qui nous a été donné, ce que nous avons reçu, ce qui nous a élargi, apaisé, remis en question. Éclaire-nous sur ce que nous pouvons reconnaître comme ta présence, la vie qui vient de toi. Merci, ô Dieu, pour la nature que tu nous confies, pour les forêts, pour ce qui nous donne force et oxygène. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, venu nous accompagner, nous ressourcer, nous éveiller au règne de ta présence. Amen. Sage, il y aura un morceau plus long à l'orgue qui durera 6 minutes. Donc ce sera un temps pour écouter un morceau en tierce en taille. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est limité à la main gauche, à la partie ténor à l'orgue. Et Christophe Renaud est venu avec une aide pour changer les jeux aussi. Et ce morceau est le dernier et aussi inspiré par ce thème de la prédication autour de l'aveuglement et de la sourdité. Vous pourrez en parler avec lui à la sortie, au cas où. Dans ce texte de Matthieu, qui est inspiré d'Ésaïe, et ça revient plusieurs fois dans la Bible, il est comme sous-entendu que nous écouterons et que nous n'entendrons pas, et que c'est même la volonté de Dieu. Comme on trouve dans l'Exode, le Pharaon qui s'endurcit, et il est dit « c'est Dieu qui veut qu'il s'endurcisse ». Et ce n'est pas une parole évidente à accueillir. Je connais quelqu'un qui, en lisant cela, elle ferme sa Bible, elle n'a plus envie de lire la Bible. Parce que ça donne l'impression que Dieu est pervers, qu'il veut comme notre malheur, il nous a donné des oreilles et il ne veut pas que nous entendions. Alors, est-ce que Dieu est pervers? On en doute. Hein? Donc, il doit y avoir une autre explication à cette théologie qu'on trouve dans plusieurs endroits dans la Bible. Cela donne le vertige. En tout cas, le fait que l'être humain est sourd, qu'il se comporte de manière égarée, ça, tout le monde est d'accord, je crois. On voit ça dès le début de la Bible, puisque on met la faute sur, certains ont même dit Ève, hein, mais sur Adam et Ève qui n'écoutent pas Dieu et qui s'égarent. Donc on met la responsabilité sur l'être humain. Mais on voit qu'en même temps, on a été créé ainsi. Hein. Et donc, certains textes babyloniens, donc sur la création, ils mettent même la faute déjà sur avant l'être humain, sur le chaos. Vous savez, dans les premiers versets de la Genèse, il est dit « Dieu souffle sur les eaux et il y avait le chaos, il y avait le tohu-bohu ». Mais dans la Genèse, ce n'est pas dit que c'était ça qui c'est le mal, c'est juste le chaos. Mais dans le texte de Gilgamesh, donc le texte qui a précédé l'histoire du déluge, eh bien, ce chaos est lié au mal. Et dans un psaume, on verra que ce mal du chaos est même souligné. Donc c'est un peu en arrière-fond, comme s'il y a un chaos, il y a quelque chose qui ne joue pas, qui nous précède. Ce n'est pas tout de notre faute. J'espère que vous voilà soulagé. Vous pourrez dire, bon, si on s'égare, dans la tradition, certaines fois on dit c'est l'homme ou c'est le pharaon qui est sourd et donc je te rendrai encore plus sourd. C'est une prédication peut-être qui va nous réveiller. Parce qu'on va dire, alors si Dieu nous dit qu'on sera plus sourd, ben non, je ne serai pas plus sourd, je vais mieux écouter. Mais ce n'est pas si simple de mieux écouter. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on va voir certains philosophes comme Ricoeur, il dit « le problème est résolu ». Ouf! On peut de nouveau être soulagé. Il dit « si vous écoutez la vie, vous voyez que la vie résout les problèmes ». Si vous regardez l'évolution de la vie, elle est toujours plus complexe, elle est toujours plus belle. Si on pense aux origines, hein, il y avait au début qu'un magma, Après, il y a eu la séparation du jour et de la nuit. C'est toute l'histoire de Genèse 1. La vie, petit à petit, s'est complexifiée. Et on est certainement monté des océans, l'être humain, les animaux. Et donc, quelque part, la vie résout les problèmes. Elle s'adapte. L'évolution va permettre qu'on s'adapte, même s'il y a des explosions volcaniques qui ont certainement décimé les dinosaures, parce que ça a tué toute la végétation, les dinosaures n'ont plus eu à manger. Et donc, la maladie, les épreuves font partie du vivant, mais la vie trouve toujours une solution et elle fleurit, elle se complexifie. Et donc l'être humain, on pourrait dire, il n'a qu'à s'en remettre à la vie. Parce qu'elle va trouver des solutions. Et le texte d'Ésaïe 55 nous dit bien, il y a une abondance qui nous précède. Il y a la grâce, il y a la lumière. Reposez-vous sur la vie. Le problème, c'est que l'être humain est intelligent. Et donc, il a une liberté d'action, il a la volonté, il va pouvoir créer des choses incroyables, il va pouvoir changer presque l'ADN, ou en tout cas l'utiliser. Et donc là, on dirait qu'il commence à y avoir des problèmes. Et on voit que la civilisation, les fruits de notre civilisation occidentale, mettent la terre en péril, en tout cas la survie du vivant. Les scientifiques disent même, à cause du réchauffement, normalement la nature s'adapte. Donc par exemple les arbres qui vont souffrir de la chaleur, il va y avoir d'autres arbres qui vont prendre leur place. Mais ça va tellement vite qu'elle ne va pas avoir le temps de s'adapter. Et donc c'est vrai que on dirait qu'il y a un aveuglement qui va mettre en péril même le créé. Est-ce que c'est Dieu qui veut cela? Je ne pense pas qu'il a cette perversion. Et il faut reconnaître que le défi pour l'humanité est énorme. Frédéric Lenoir, qui a écrit un livre sur justement ce défi de l'avenir, il dit ce qui se passe actuellement, c'est une révolution aussi vaste que le néolithique quand on est devenu sédentaire. Aujourd'hui, on entre vraiment dans cette mondialisation, on devient un seul corps, on ne peut plus résoudre les problèmes juste dans notre coin, juste dans notre pays. On est devenu tellement nombreux, tellement interconnectés qu'on ne peut pas juste faire son petit bonheur ou dire ben, « je vais m'améliorer », on est obligé de réfléchir de manière systémique. Et donc cette mondialisation du fait de cette grande population est un grand défi qu'il n'est pas évident de surmonter. Par certains côtés, on est arrivé à dire maintenant « il y a des droits de l'homme, il y a le droit d'avoir la liberté de croyance, il y a, on peut dire, des avancées, il n'y a pas que des drames à cause de la réflexion humaine. On fait pas que des bêtises, on peut dire. Il y a plein d'avancées que l'on a fait, mais c'est vrai qu'il y a aussi bien des maladies, bien des problèmes qui sont survenus en lien à la technicité en lien à ces avancées scientifiques qui sont mises en avant. Alors, en méditant tout cela ces jours passés, je disais, c'est vrai que cet aveuglement, il est aussi lié à notre création, à ce que nous sommes. C'est pas tout lié à nos fautes. On a un savoir limité. Et donc, il faut de l'humilité. Il faut reconnaître que ça vient de notre création aussi, donc ça vient de Dieu. On est limité. On doit accepter qu'on ne comprend pas tout. On doit accepter qu'on va s'égarer. On doit accepter d'être patient. On doit accepter qu'on va créer des catastrophes. Ça vient aussi de Dieu puisqu'on a été créé ainsi. Et donc, il va falloir consentir. Ricoeur, il dit, il va falloir accepter qu'on patauge dans quelque chose qui n'est pas clair. On va patauger. Ça fait partie de notre vie sur la terre. Personne n'a la solution à tout. Même si certaines religions, certaines sciences disent, voilà, si vous faites ça, tous les problèmes seront résolus. C'est pas vrai, parce qu'on patauge. Hein. On va devoir s'adapter. Et puis on a cette volonté, on a la capacité de dire non. Et donc on va devoir utiliser notre liberté pour ajuster, pour faire au mieux. Et donc on va devoir combattre pour la justice, pour dire bien là ça joue pas, on doit dire non, les politiques, parfois les scientifiques, parfois les femmes qui disent que si elles étaient plus dans les groupes qui discutent pour la paix, on voit que tous ces gens qui se réunissent pour faire la paix après les conflits, c'est des hommes, c'est beaucoup d'hommes. Et donc on va devoir s'adapter. Mais que Dieu est tout amour, et je crois qu'on peut faire confiance que, comme Ricoeur, il dit, la vie qui nous est donnée, la présence de Dieu qui nous est donnée, elle a tout résolu. Il y a l'éternité en elle, il y a des ressources en elle, et si on va à des catastrophes, eh bien, il faut revenir à elle. On perd le lien. Dans nos petites boîtes, on dit l'intelligence artificielle, c'est vrai que quelqu'un a dit, on est à l'ère du plastique aujourd'hui, vous voyez. C'est pas très enthousiasmant, hein. C'est ce qu'on crée. Et donc, revenir au créé, revenir au bord du lac, allez, se tremper un peu pour se rafraîchir les idées. Et puis, on s'en remet quand même dans la confiance à Dieu qui nous crée, qui nous donne la vie. Amen.